Aujourd'hui, je fais tout.
Il y a des gens comme ça.
Je voulais j'aime pas faire la présidence et en même temps la prédication. Mais bon, ça s'est organisé de cette manière. Après, à cause des intérêts. Voilà. Ce matin, j'aimerais vous partager sur l'ascension.
Puisque nous avons eu le jeudi de l'ascension
cette semaine.
Et
j'aimerais tout d'abord vous lire dans les Actes 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Je vous lis. Un jour qu'ils prenaient un repas avec eux, et leur donna cet ordre, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus demandèrent à leur Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de savoir quand ils viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis, un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Jusqu'ici, c'est notre lecture. Amen. Le titre que j'ai choisi pour cette prédication, c'est « Le chrétien à partir de l'ascension ». Ou plutôt, je dirais, j'ai choisi un autre titre, « Es-tu un vrai disciple du Christ ?» Je résume un peu l'histoire. Ce qui suivait donc Jésus depuis le début était dans le désespoir. Lorsqu'ils ont vu Jésus se sacrifier, ou plutôt lorsque Jésus était sur la croix. Ils étaient, en voyant la mort de Jésus, tous dans la confusion, et puis ils sont retournés chez eux. Mais ensuite, ils ont expérimenté une chose incroyable, c'est que Jésus est apparu, était ressuscité. Ils se sont rassemblés tous ensemble pour être ensuite enseignés par Jésus. Après sa résurrection, il est resté parmi les siens encore 40 jours pour enseigner. Pendant ces 40 jours, Jésus a parlé de nombreuses fois à ses disciples, dont une dizaine nous est rapportée dans les quatre évangiles. Au cours de ces manifestations, Jésus a prouvé qu'il était bien vivant, qu'il n'avait rien d'un esprit désincarné, mais plutôt, il possédait vraiment un corps bien réel pouvant être vu et touché, et qui lui permettait de manger les mêmes aliments qu'auparavant. Cependant, ce corps de résurrection avait des caractéristiques tout autres que celui de son incarnation, ainsi il pouvait apparaître et disparaître à volonté, se déplacer d'une ville à une autre instantanément. Ce qui est étonnant est qu'il a prêché encore une fois sur le royaume de Dieu, dans les Actes, lorsqu'il a commencé à prêcher l'Évangile. C'est vrai que lorsqu'il a commencé plutôt son ministère, il a commencé à parler du royaume des cieux. Et puis pendant ces 40 jours, il a encore parlé du royaume des cieux. Dans Actes, chapitre 1, verset 3, il est dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il n'avait pas encore abandonné l'idée du royaume de Dieu. Il a continué à prêcher ce royaume de Dieu. Voilà un peu dans les Actes qu'on voit cet épisode de l'ascension de Jésus qui est élevé dans les cieux Et puis on peut voir encore, j'aimerais encore vous lire un passage où, juste avant l'ascension, quelques jours avant l'ascension, il a encore laissé ses paroles dans Matthieu 28, à partir du verset 16, que j'aimerais vous lire. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quand nous lisons ces versets, que nous connaissons tellement bien, n'est-ce pas, nous avons entendu tellement de fois, on ne fait pas attention. Et quand j'ai relu ça, le verset qui m'a intrigué, c'est au verset 17. Quand donc les disciples étaient là, les 11, quand ils le virent, ils l'adorèrent. Donc ils ont vu Jésus ressuscité. Ils ont entendu son enseignement. Et certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Est-ce que ça vous avait marqué déjà auparavant ou pas? On se dit souvent, Thomas a douté. Après, il a retrouvé la foi en rencontrant le Seigneur. Mais là, encore, les disciples doutent. Certains. C'est sur ce passage que j'aimerais apporter un message. Pourquoi ils ont douté d'ailleurs? Quand Thomas a douté, Jésus s'est montré à lui. Il a dit, voilà, regarde, touche. Je ne suis pas un esprit, je suis comme vous. Il a voulu prouver que c'était bien lui, Jésus, ressuscité. Cependant, il est bien dit dans Matthieu 28. Parmi ces disciples, certains ont douté encore. Pourquoi cette hésitation? Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve que même si nous voyons des miracles, cela ne nous aide pas à avoir la conviction de la présence de Dieu. Le fait de voir ne suffit pas pour convaincre les personnes. Je dirais même pour nous, je compare un petit peu avec nous. Nous qui avons, comme ces disciples, rencontré Jésus, nous qui avons un jour donné notre vie, comme ces disciples, donné toute leur vie. En tout cas, comme leurs trois années de ministère avec Jésus, nous avons peut-être donné une partie de notre vie pour Jésus. Et puis, parfois, nous pouvons avoir des moments de doute. Malgré les années passées dans l'Église, devant une situation difficile, devant les épreuves, devant des choses qui se passent malgré ma volonté, on peut douter. Et là, je peux voir deux catégories de personnes. Il y a des vrais disciples qui restent sincères, qui restent authentiques et qui restent fidèles. Et puis, il y a l'autre catégorie qui ne sont pas forcément des disciples. Et qui ont été attirés par Jésus, mais qui n'ont pas forcément donné tout leur cœur. Alors, dans Actes 19, j'aimerais vous lire cet épisode. Dans Actes 19, voilà. Dieu accomplissait des miracles extraordinaires, par l'intermédiaire de Paul. Et puis, parfois, on apportait aux malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Et puis, quand ils touchaient cette mouchoire, ces linges, ils étaient alors délivrés de leur maladie. Et des esprits mauvais sortaient d'eux.
Incroyable.
Incroyable. Et en voyant ces miracles extraordinaires, quelques juifs se sont dit,
ah, peut-être, j'aimerais aussi faire la même chose.
Surtout à l'époque, les grands prêtres, ou en tout cas les hommes pieux, avaient aussi ce devoir de chasser les démons. Alors, quelques juifs, donc, voulaient chasser encore les mauvais esprits. Or, les malades, ils ont essayé donc d'utiliser le nom du Seigneur, Jésus. Et donc, parfois, ils disaient aux esprits mauvais, « Je vous ordonne de sortir au nom de ce Jésus que Paul prêche. » Et à l'époque, il y avait un grand prêtre qui s'appelait Séba. Lui, il avait 7 fils. Donc, Séba, il était grand prêtre, et donc il avait 7 fils, qui étaient aussi destinés, bien sûr, à servir Dieu. Et ils l'ont justement fait exactement de la même manière, c'est-à-dire, ils ont essayé de chasser les esprits mauvais. De cette manière. Et un jour, ils ont sûrement peut-être essayé que Dieu a agi, mais un jour, l'esprit mauvais leur répondit. Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et l'homme possédé de l'esprit mauvais, ce jeu s'assurait, se montra plus fort que tous. Il les maltraita avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de sa maison, nus et couverts de blessures. Voilà. Ces 7 fils du grand prêtre Séba étaient la risée de ce diable, méprisé par Satan, qui, d'apparence, a utilisé les bonnes formules, c'est-à-dire qu'il a quand même utilisé le nom de Jésus pour chasser, il voulait faire le bien, apporter un bien à cette personne qui était sous l'emprise du mauvais esprit de Dieu. Mais c'est cependant, voilà, il y avait seulement une apparence de piété. Le diable a méprisé. Le diable nous méprise de cette manière, mais qu'il tremble, parce que nous sommes des hommes et des femmes de prière. Qui avance cette conviction du salut, de la vie éternelle.
Un jour, j'avais vu un article
sur la différence entre être fan et être disciple.
Vous savez, un fan, c'est quelque chose, non, que quelqu'un.
J'ai lu le dictionnaire, un fan, c'est ceux qui admirent et l'aiment d'une célébrité, d'un groupe. Ou d'un centre d'intérêt, etc. Est-ce que vous êtes fan de quelqu'un?
C'est des millions?
Je l'ai l'air. La différence entre un fan et un disciple, c'est qu'un fan, lui, il a choisi de l'admirer. Et en l'admirant, en assistant à peut-être un concert d'un chanteur, il peut avoir un certain bien-être de soi. Il y a un bienfait à l'intérieur qui est là. Mais, vous savez, c'est pas éternel. C'est-à-dire que si vous découvrez encore un autre chanteur encore merveilleux, qui est de tendance d'aujourd'hui, vous pouvez changer le bateau. Vous pourriez être aussi un fan, si Daniel était là, j'aurais dit un fan de foot, hein, comme Daniel. Je ne sais pas si vous avez vu la finale de 1998, où la France a gagné.
Là, on était tous derrière l'équipe de France. On est fans du foot, de l'équipe de France, on est derrière eux, etc. etc. Parce qu'on est voilà, surtout derrière Zizou. Je me rappelle à ce jour-là, un jour vraiment complètement, on était dans la folie, enfin, dans l'euphorie plutôt. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, la mondiale de 2006, hein, où l'équipe de France a montré des mauvais exemples. Je ne vais pas dire, je ne vais pas redire tout ce qui s'est passé. Voilà, on peut aguler une équipe, devenir fan, et tout de suite, quand ça ne nous convient plus, parce qu'ils ont fait quelque chose, parce que l'envie de prier ne nous convient pas, hop, on peut même les huer, changer. On change vite notre avis. C'est ça la différence entre un fan et un disciple. On peut devenir fan de Jésus. Vous savez, quand Jésus était à l'époque présent en enseignant aux gens, il y avait beaucoup de fans. Pourquoi ? Parce que Jésus donnait à manger gratuitement. Il pouvait nourrir 5000 hommes avec seulement voilà, quelques aliments, de pain d'orge et de poisson. Et puis, voilà, il réalisait des miracles. Donc, il y avait beaucoup de fans qui le suivaient. À chaque fois, quand on voit qu'il y avait une foule nombreuse qui l'accompagnait. Et puis, beaucoup de gens ont été touchés par lui. Une foule suivait Jésus de cette manière. Mais s'ils étaient tous des disciples, là on peut se poser des questions. Le disciple n'est pas celui qui suit seulement, ou qui vient admirer, mais c'est celui qui peut porter sa croix, et qui est même prêt à payer le prix pour croire, pour suivre ce Jésus. Ce Jésus qui disait, même s'il a, lorsqu'il a réalisé tous ses miracles, il y avait une grande foule nombreuse qui le suivait. Mais quand il a commencé à porter la croix, il n'y avait pas grand monde. D'ailleurs, Jésus leur avait prévenu. Il leur avait dit que c'est vrai que Vérona, les tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et en plus, il avait prédit qu'il allait mourir aussi. Et il est en train de dire, malgré cela, veux-tu me suivre ? C'est la phrase qu'il est en train de lancer encore ce matin à nous tous. Il est en train de dire aussi ce matin, si vous me suivez, il y aura peut-être des persécutions, vous serez peut-être largués de tout le monde, mais si vous êtes prêts à vous sacrifier certaines choses pour me suivre pleinement. Dans Luc 14, j'aimerais vous lire encore un passage où 26, celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre personne, sinon il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Voilà. À travers ces deux versets, ce qu'on peut voir, c'est que Dieu demande de renoncement. Dieu nous dit quelle est la vraie priorité. C'est lui, Dieu, seul, notre priorité absolue. Et c'est comme ça qu'on devient invisible si on accepte de vivre ce message du Christ. Puis là, ensuite, au verset 27, il est dit de porter sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire, porter la croix ? À l'époque, lorsque Jésus a dit porter la croix, les auditeurs de Jésus savaient ce que signifiait. Mais l'expression porter sa croix veut dire, ça rappelle un peu l'image où les Romains conduisaient un condamné sur le lieu d'exécution. Ils se forçaient à porter la croix. Le condamné montrait ainsi sa soumission à Rome. Et surtout, le condamné avertissait les spectateurs qu'ils n'avaient intérêt à se soumettre aussi à Rome. De même, lorsque le Seigneur nous dit « Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple », ça veut dire que bah, il y a aussi des prix à payer. Le Seigneur met ainsi à l'épreuve l'enthousiasme des foules qui le suivaient. On peut être enthousiaste en voyant des choses extraordinaires, des victoires de Jésus. Mais il n'y a pas que des victoires, malheureusement, dans la vie. Il y a aussi des épreuves. Et suivre Jésus, c'est se plier entièrement à sa volonté, dans la persévérance et dans notre engagement total à Dieu. En parlant de ce verset dans Luc 14, j'ai continué à la lecture et j'ai trouvé un passage très bizarre. En fait, en parlant de disciples là, il introduit deux histoires complètement. J'avais l'impression qu'une histoire qui n'a rien à voir avec les disciples là, mais en fait, ça la concerne. Jésus dit : si l'un de vous veut construire une tour, il calcule la dépense pour achever le travail. Sinon, il serait la rivière de tout le monde. Et puis, si un roi veut partir en guerre avec seulement 10 000 hommes, bah, pour affronter en tout cas son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 hommes, s'il pense qu'il ne peut pas le vaincre, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin pour lui demander ses conditions de paix. Les conditions de paix. Et vraiment, pendant longtemps, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous arrivez à bien comprendre? Parce qu'en fait, c'est enclavé avec le disciple-là. Après, on revient encore au disciple-là. Ça invite en tout cas à réfléchir avant de s'engager à ses côtés. Cela veut dire aussi que, comme cette personne qui veut construire une tour sans calculer la dépense, on peut croire en Dieu tout l'âme au départ et qu'il ne peut pas terminer la course. Je vous avais dit il y a quelques semaines que la vie n'est pas une course de 100 mètres, mais comme un marathon qui dure, qui se situe sur une distance de 42,195, c'est ça?
Oui.
Kilomètres.
Oui. Oui.
C'est long. Ça demande beaucoup de persévérance. Parce qu'il y a des hauts et des bas. C'est pas si simple que ça. Et d'ailleurs, Dieu nous dit, le chemin qu'on doit traverser est un chemin étroit. C'est pas si large que ça. Très difficile. Ça demande une certaine exercice ou de soi pour avoir cette récompense de sa vie éternelle. Soyons fidèles jusqu'à la fin. Heureux en tout cas ceux qui écoutent et ceux qui comprennent ce message. Surtout dans cette... Ah oui, j'aimerais encore, je voulais aussi raconter cette histoire dans les évangiles où les disciples n'avaient pas encore compris le vrai sens du message de Jésus. Vous savez, vous vous rappelez l'épisode où Jean et Jacques voulaient avoir une place importante auprès de Jésus. Hein? D'ailleurs, ils voulaient intervenir même leur maman, pour que Jésus place à la droite et à la gauche leurs deux fils. Je pense qu'à l'époque déjà, ces disciples et leur maman ont vu des miracles extraordinaires. Ils étaient dans l'effervescence, dans l'euphorie. Quand ils ont vu Jésus nourrir 5000 personnes, ils se sont dit, ça y est, avec lui, nous pouvons manger. Hein? Ça y est, il n'y aura aucun problème avec lui. Et puis, il avait des pouvoirs extraordinaires. Donc, ils se sont dit, ça y est, on va chasser des Romains. Hein? Il a le pouvoir de chasser tellement de choses qu'il aura aussi le pouvoir. Et puis, quand ils ont vu la popularité de Jésus, hein? Vous savez, à l'entrée de Jérusalem, il était acclamé par tout Jérusalem à cause de ce qu'il avait fait déjà avant. Quand ils ont vu ça, c'est le jackpot. On a choisi ma maison. J'aurais une place. Hein? Et là, ils se sont dit, dans le nouveau gouvernement, oui, j'aimerais avoir une place très importante. Peut-être pas, pourquoi pas le Premier ministre, pourquoi pas, je sais pas, le ministre de la Défense, les deux frères. Devant cette exigence, devant cette exigence, Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous voir la coupe que je dois boire? Il dit, oui, on te suivra. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Il dit, oui, vous allez suivre, vous allez voir cette coupe. En ce qui concerne, en tout cas, et puis, en tout cas, devant cette discussion, les dix autres qui n'avaient non plus pas compris le vrai sens du message de Jésus, ils étaient indignés contre les deux frères. Il y avait une certaine lutte de pouvoir. Ça, ce n'était pas des vrais disciples. On pourrait même dire que c'est une foule qui suit Jésus. Ou plutôt des fans qui suivent quelqu'un, qui les adore. Et dès que Jésus était mort, ils étaient disparus. Comment on peut changer d'idole? Mais être des vrais disciples demande persévérance. D'ailleurs, dans Matthieu 1, donc, il continue, Jésus, en donnant des réponses, il dit, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Il y a des vrais chrétiens qui paient des prix pour croire véritablement. Vous savez, connaissez-vous le pays le plus persécuté dans le monde? N'est-ce pas? D'après la liste de portes ouvertes. C'est la Corée du Nord. Oui. Apparemment, en Corée du Nord, il y a, je ne sais pas si c'est 40 000 ou 400 000 chrétiens qui sont convertis et qui font leur culte. Ça veut dire que quand ils vont faire leur culte entre eux, ça veut dire qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie, leur famille et beaucoup d'autres persécutions, mais même jusqu'à perdre tout ce qu'ils ont pour rencontrer Dieu. Il peut y avoir beaucoup de persécutions. Nous, heureusement, nous n'avons pas de persécutions dans ce pays-là, en tout cas pas encore. Dieu merci, nous avons la paix. Mais Dieu peut-être peut nous demander d'autres renoncements. Qu'est-ce que nous devons renoncer pour mieux, pour être un vrai disciple, pour mieux le croire, pour mieux le suivre? C'est quelque chose qu'on devrait peut-être réfléchir. Et Dieu pourrait nous donner une certaine pensée. Des vrais disciples ne sont pas devenir des responsables de l'Église. Avoir une fonction dans l'Église, c'est pas ça. Être des vrais disciples. Être disciple, c'est tout simplement renoncer à nos péchés et rencontrer Jésus véritablement comme Zachée l'a été. Vous connaissez l'histoire de Zachée? D'après la tradition de l'Église, Zachée est mort martyr. Après. Que vraiment les gens qui nous entourent, que les frères et sœurs dans le Christ, que mes parents, mes oncles, ou mes voisins, mes collègues de travail, puissent voir en nous que nous sommes des disciples. Des disciples de Christ. Vous savez, les disciples ressemblent de plus en plus leur maître, avec le fruit. Et c'est vrai que les disciples de Jésus ont vécu 3 ans, ou 3 ans et demi avec lui, en mangeant avec lui, en l'écoutant, ils l'ont vu, ils ont vécu des choses ensemble. Et en vivant ensemble, on se ressemble. Les disciples se ressemblent au maître, D'ailleurs, souvent on dit aussi que les couples se ressemblent, non?
Les couples, je ne sais pas, quand je vois David et Isabelle,
oui, il y a une certaine, pas forcément physiquement, mais en tout cas, il y a une certaine ressemblance. Quand Laetitia et moi allons quelque part, les gens me disent qu'on se ressemble, on est complètement différents. Voilà. En vivant ensemble, en partageant des choses, je pense qu'il y a des choses qu'on partage ensemble, on vit de la même manière et on crée quelque chose. De la même manière, les disciples, en vivant sans arrêt avec le Christ, en méditant jour et nuit cette parole si précieuse, on peut le ressembler de plus en plus. Et c'est ainsi que les gens verront à travers le fruit que nous sommes des vrais disciples de Christ. J'aimerais terminer par cette lecture dans Marc 8. Ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Il y a peut-être des choses à renoncer pour mieux le croire, pour mieux être des vrais disciples, peut-être ne pas être jaloux, ne pas s'enorgueillir, ne pas donner trop d'importance à l'apparence. Vous savez, c'est la première fois que je me mets en chair, en short. C'est la première fois. J'ai jamais osé me mettre en short. Toujours, même s'il faisait 40 degrés, je mettais un long pantalon avec un. Voilà. Mais je me dis, c'est pas l'apparence. En fait, en préparant ces messages, je me suis dit, de toute façon, c'est pas l'apparence qui compte. C'est le cœur. Dieu voit au cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Même si nous avons l'apparence de piété, si Dieu dit non, c'est non. Mais si Dieu dit oui, là, ça mérite. Ça mérite de continuer d'avancer. D'ailleurs, j'ai commencé le message en vous disant que Jésus est monté au ciel. Et puis, il a dit qu'il reviendrait de la même manière. Il reviendra un jour. En attendant, Dieu nous appelle vraiment à vivre en étant des vrais disciples, en renonçant à certaines choses, et puis surtout en vivant par l'Esprit. C'est vrai que nous avons vu pas mal de disciples qui ont fauté, qui ont échoué pendant leur ministère avec Jésus, parce qu'ils n'étaient pas dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Dans Romains 8, 13, il est dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » C'est comme ça que nous pouvons veiller. C'est comme ça que nous pouvons être dans l'attente de la venue de Jésus. C'est comme ça que nous pouvons non pas déchirer nos vêtements, mais déchirer notre cœur pour être dans l'humilité devant le Seigneur, pour être des vrais disciples qui ne doutent plus. Au départ, je disais qu'il y a des gens, des disciples qui doutaient encore. C'est encore avant la Pentecôte, avant l'Esprit de Dieu. Dieu, par la grâce de Dieu, veut nous aider à travers le Esprit. Que vraiment, qu'il nous aide à continuer à aller de l'avant. Amen.